Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, à travers ma femme, nous allons faire un petit peu de sociologie et d'anthropologie. Comment ça? Eh bien, on y va. Et on se fait guider par elle.
Média. Yasmine. Femme d'aujourd'hui.
Et Lamia Larsassi, bonjour. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lamia?
Bonjour Yasmine, merci de m'accueillir dans ton émission. Ça va très bien, c'est une douleur. C'est top.
Alors Lamia, justement, avec toi, on va parler de ta passion pour le raffinement, avec une touche marocaine, bien sûr. Tu fais partie vraiment assez de cette première génération, sans vouloir te vieillir, bien au contraire. Mais tu fais quand même partie de cette première génération de stylistes professionnels, modernes, qui se sont démarqués par, on va dire, une certaine forme de communication, de glamour autour du caftan marocain. Est-ce que je me trompe ?
En tout cas, merci, parce que bon, ce sont des compliments. Hein. En effet, je pense que je suis une créatrice qui aime associer dans mon interprétation du caftan des univers un petit peu différents. Et je pense que ça donne pas mal de modernité, en fait, aux pièces quand elles sont finies. On retrouve un peu notre héritage, mais pas que. Tout ce qui nous marque, tout ce qu'on voit autour de nous, toute la culture mode est présente dans le processus de création. Et bien sûr, dans la manière de le promouvoir, de le mettre en valeur, on utilise un petit peu les moyens d'aujourd'hui.
Alors, justement, c'était compliqué de démarrer il y a quelques années. Le terrain était aussi favorable, était aussi ouvert. Est-ce que les femmes acceptaient cette façon de faire différente, d'aller voir une vraie spécialiste, une spécialiste, on va dire, avec des codes de maison de couture, ou bien c'était tout naturel?
Disons qu'au départ, en termes d'organisation, c'était un petit peu différent. Lorsque j'ai démarré dans ce métier, il y a déjà de cela 23 ans, les codes, la manière de recevoir en fait les clientes étaient un petit peu différentes. Mmh. On arrivait, on se posait, on n'avait pas forcément rendez-vous. Donc ça, c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Pour qu'on comprenne que voilà, c'est un métier comme un autre et il nécessite de s'y préparer, avoir un rendez-vous et d'être totalement en phase avec la cliente lorsqu'elle arrive, de ne pas être perturbée par d'autres choses. Donc c'est vrai qu'au niveau de la mise en marche, il y avait ça a pris un petit peu de temps, mais après c'est devenu un peu la norme quoi.
Alors, justement, Lamia Larsassi, quand on rentre dans ce domaine du caftan marocain, c'est souvent, d'après les différentes interviews que j'ai pu avoir, c'est souvent parce que on a d'autres femmes dans la famille qui y étaient déjà. Est-ce que c'est ton cas aussi?
Ah, qui viennent de là? Non,
non,
pas vraiment. Honnêtement, non pas vraiment. Non, je pense que c'est un petit peu le hasard. Moi, je n'étais pas prédestinée à faire du caftan. J'aurais pu faire beaucoup d'autres choses en lien avec la femme et en lien avec l'univers de l'art, de la beauté. Mais c'est un petit peu le hasard qui m'y a poussée, qui m'y a conduit. J'ai fait des rencontres à l'occasion de mariages, à l'occasion de fêtes, où ce que je portais, parler aux personnes qui étaient présentes et qui m'ont encouragée vivement. Et c'est un peu par ce biais-là que je suis arrivée au caftan, mais j'avais d'autres passions aussi. Le bijou, les pièces anciennes, la décoration d'intérieur. Je veux dire, j'étais vraiment déjà imprégné d'univers qui, à mon sens, se ressemble.
Absolument. Alors, quand on fait des caftans, on ne fait pas que des caftans. On rencontre des femmes, on discute avec elles, on les rencontre plusieurs fois, on noue des relations. Est-ce que tu es aussi un peu la psy de tes clientes, Lamia ?
Eh bien, j'utiliserai pas ce mot parce que effectivement, bon, j'imagine que voilà, c'est un vrai métier.
Ouais.
Que, voilà, les gens font des rencontres dans le cadre d'un psychologue qui sont d'une nature différente. Chez moi, il y a quand même il y a de la légèreté, mais disons la convivialité qu'ils rencontrent, l'empathie, toutes ces émotions. Qu'ils croisent en venant dans mon atelier fait qu'ils se sentent extrêmement à l'aise et que de ce fait j'ai noué de très très belles relations à l'intérieur de mon atelier. Mmh. Vraiment de très belles rencontres, de très belles relations, et c'est vrai que l'aspect psychologique et rentre en ligne de compte vraiment, je vais dire presque à 70%.
Mmh.
Voilà, parce que il faut arriver à observer, à voir ce qui amène cette personne chez vous, qu'est-ce qui lui a parlé de votre univers, dans quelle fragilité elle est actuellement, et tout ça, ce sont des choses auxquelles je suis extrêmement sensible, vraiment. Voilà, on ne gère pas et on ne travaille pas avec toutes les femmes de la même manière.
C'est ça. C'est ça, il faut.
Elles traversent bien sûr pour la plupart des périodes dans leur vie, puis souvent.
Comme
c'est
nous toutes d'ailleurs.
Voilà, et absolument. Et selon les périodes dans lesquelles vous les rencontrez, leurs attentes sont différentes.
Mmh. Mmh. Est-ce qu'il t'arrive d'apprendre des expériences de tes clientes? Par exemple, moi, quand je fais mes interviews, je me rends compte après que j'apprends en fait de mes femmes, j'apprends de leurs expériences, j'apprends de leurs douleurs, j'apprends de leurs challenges. Elles me motivent à me dépasser aussi, j'apprends de leurs coups durs. Est-ce que inexorablement on apprend aussi, tu apprends de tes femmes, des femmes que tu rencontres?
On apprend énormément, pour peu qu'on ait l'esprit ouvert, pour peu qu'on soit en empathie. Oui, je répondrai à cette question un oui totalement franc. Elles m'ont beaucoup appris de leur parcours, de la manière dont elles le vivaient, de leur fragilité, de leur sensibilité. Ça vous aide aussi à mettre en perspective ce qui vous arrive à vous aussi.
C'est ça.
Et effectivement, c'est quelque chose, c'est ce partage-là en fait qui est peut-être le plus présent dans mon atelier. Je ne veux pas dire que le caftan est
secondaire, ouais, ouais.
Pas du tout. Mais c'est cet échange-là qui nous fait avancer, construire une pièce. Voilà, il y a vraiment, il faut qu'on soit dans une bienveillance vraiment mutuelle. Et c'est vrai qu'elles m'ont beaucoup appris et que j'ai fait des très très belles rencontres, de très belles amitiés grâce à ce métier-là et grâce à ces rencontres.
Alors, si on devait pousser un petit peu la réflexion un peu plus loin, à titre personnel, qu'est-ce que tu penses? Quelle est la leçon qui t'a le plus marqué? Bien sûr, sans citer de nom, en respectant la confidentialité de tes clientes, etc. Mais toi, Lamia Rsassi, quelle est cette leçon de vie qui t'a le plus marqué?
Disons que si je devais résumer, je dirais simplement une grande empathie pour toutes ces femmes que j'ai vues défiler, qui pour certaines ont l'air extrêmement sûres d'elles, qui pour certaines ont des fonctionnements où vraiment on ne voit pas ce qui se cache derrière, on ne voit pas les douleurs, on voit, voilà, vraiment ne jamais s'arrêter à une image, à un ton, à vraiment.
À une perception, ouais.
Du tout. Un sourire cache beaucoup de choses, beaucoup de choses.
Justement, toi, tu mets ça dans quoi? Dans la résilience de la femme marocaine, dans sa force ou dans sa pudeur?
Dans sa pudeur au départ, quand elle n'est pas totalement en confiance.
Mm.
Et dans une résilience certaine, certaine et liée à l'environnement dans lequel elle vit et dans lequel on peut vivre, si on peut le dire.
Hein. Mm. C'est-à-dire un environnement qui met un peu
qui
la femme...
Qui ne leur fait pas de cadeaux.
Ouais.
Qui ne leur fait pas de cadeaux.
La femme marocaine vit encore dans ce genre d'environnement. On a l'impression qu'elle est de plus en plus libre, qu'elle est de plus en plus détachée de ses codes traditionnels. Mais justement, toi, tu as l'opportunité de voir des femmes dans plus d'intimité.
Mmh.
Et comme tu disais, elles finissent par s'ouvrir, etc., et raconter. Donc, à travers ton atelier, on peut aussi avoir un pot de la société féminine marocaine. Est-ce que le poids de la culture, de la société, du mariage, du divorce, de l'argent, est-ce que tout ça est encore présent ?
Extrêmement présent. Et c'est ça qui est assez un peu compliqué, parce que de plus en plus subtil, de plus en plus masqué. Mais ce fond-là existe encore. Il existe encore. Et ces codes auxquels les femmes doivent répondre sont encore très présents, très, très déterminants dans leur choix de vie. Donc, effectivement, on a des gens comme ça qui arrivent à se sortir de ces codes-là, de ces injonctions, de ces impératifs. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Et je pense que c'est par moments un peu schizophrénique.
Alors, une question. Sans, bien sûr, porter aucun jugement de valeur, mais est-ce qu'il t'arrive parfois, quand tu reçois notamment une jeune mariée, de te dire « elle est en train de faire une erreur » ?«
Elle est en train de faire une erreur.
Elle est trop jeune, elle est en train de... Pour... » Enfin, voilà.
Les histoires, honnêtement, les histoires ne se ressemblent pas.
Ouais.
Je dirais simplement que, disons qu'a priori, je préfère voir arriver une mariée qui n'est pas non plus trop jeune, qui n'est pas qui a quand même eu la chance, eu l'ouverture d'esprit de la part de ses parents, de lui permettre de vivre des choses, et avant de se lancer dans cette grande aventure qu'est le mariage.
Et toi, dans tout ça, Lamia, est-ce que toi, dans tout ça, ton chemin personnel en parallèle avec le caftan, en parallèle avec la création, en parallèle, ton chemin de femme, est-ce que parfois il rejoint celui de ces femmes que tu rencontres chez toi dans ton atelier ?
Totalement, totalement. Avec quand même cette chance que j'ai eue de me réaliser et de me réaliser au travers d'une passion. Mmh. C'est pas une chance qui est donnée à tout le monde. C'est une chance qui est par moments, disons, prenante, fatigante, obsédante même. Donc c'est pas toujours simple. Mais disons que cette passion m'a permis quand même de faire diversion avec des événements compliqués dans ma vie, comme toutes les femmes. Et j'ai eu cette chance-là d'être totalement prise dans un univers qui me passionne et qui occupe une grande partie de ma vie, tout comme mes enfants naturellement, qui sont au centre de mes préoccupations aussi.
Et puis ça donne aussi une autonomie, c'est-à-dire que financièrement, la femme, non seulement la passion, mais aussi financièrement cette autonomie qui permet de claquer la porte quand ça va pas.
Qui est salvatrice.
Salvatrice.
Qui est salvatrice, oui. Vraiment, c'est moi, j'encourage toutes les jeunes femmes à persévérer, à travailler. Ça n'est pas simple, clairement, mais je les encourage vivement à travailler pour gagner cette liberté-là.
Absolument. Absolument, de travailler. Et tu as dit quelque chose de magnifique. C'est une passion. C'est pas toujours facile. Parfois, c'est compliqué. C'est prenant. C'est fatigant. Parfois, on a envie de baisser les bras, mais c'est tellement salvateur, en réalité.
Exactement. Mais c'est vrai que les passions ont cette particularité d'être quasiment obsessionnelles. Donc elles sont extrêmement usantes. Et en même temps, on ne sait pas être quelqu'un d'autre. On ne sait pas faire autrement.
C'est ça.
Et voilà. Donc,
c'est ça, absolument.
Voilà, c'est le revers de la médaille. Il en faut bien une. C'est celui-ci, ouais.
Alors, il y a eu le caftan pendant longtemps. Au début de l'entretien, tu m'as dit que tu étais depuis toujours attirée par le monde de la beauté, que ce soit du raffinement, que ce soit la décoration d'intérieur, les bijoux. Et justement, en parlant de bijoux, il y a pas longtemps, 2 ans, je pense, Lamia, tu as lancé...
En fait, ça fait plus longtemps que ça.
Oui.
Mais disons qu'on a pignon sur rue depuis 2 ans.
Ok.
Voilà, mais le projet et l'étude du projet datent d'il y a 5-6 ans. Et lorsque j'ai rencontré ma clientèle, lorsque les pièces ont plu, j'ai décidé d'ouvrir et d'avoir pignon sur rue, mais ça fait bien 5-6 ans.
Donc maintenant, tu es créatrice de bijoux aussi ?
Alors, je suis créatrice de bijoux et je représente certaines marques. Je représente des créatrices. Et là aussi, dans ma boutique, j'ai choisi d'être dans un, disons, dans un point de vue un peu militant, on va dire.
Dans quel sens?
Je mets en lumière les femmes. Voilà.
Ah oui.
Dans ma sélection, elles ont la priorité.
Alors, quand les femmes viennent acheter un bijou, parce que on peut se le faire offrir, ce qui est super, mais on peut se faire plaisir aussi.
Ce qui est plus rare.
C'est plus rare de se le faire offrir.
Elles se font plaisir.
Voilà, c'est la nouvelle génération des femmes.
Exactement, c'est très bien.
Mais c'est très bien. Quand elles viennent justement s'offrir un bijou, qu'est-ce qu'on vient chercher, nous, les femmes? Le mien. Honnêtement, ton regard, pas de chef d'entreprise, mais ton regard de femme humaine.
Très, très, très loin d'être un chef d'entreprise. Alors là, pour le coup, si je bug par un biais, c'est vraiment celui-là. Oh là là, c'est pas du tout, j'ai pas du tout ni les compétences, ni les aptitudes, et je laisse ça à d'autres, parce que justement, il ne faut surtout pas que je m'en mêle. Moi, c'est simplement la création, le choix des pièces, la rencontre à la cliente. Et je pense que les clientes, en fait, elles, en fonction des moments qu'elles traversent, elles ont envie de gagner en modernité, de gagner en côté rock'n'roll, en côté... C'est des étapes. C'est comme nous toutes, par moments, on se sent d'humeur chic, on se sent d'humeur classique, on se sent d'humeur romantique. Et en fonction de ça, lorsqu'on le perçoit sur elles, qu'on écoute et qu'on comprend leurs attentes, on les accompagne dans ça, tout en respectant, franchement, ce qu'elles ont, leur style, voilà, pour ne pas être non plus à contre-courant totalement avec qui elles sont, parce que lorsqu'on est trop à contre-courant, je trouve que ça se voit. C'est comme pour le vêtement, ça se voit. Lorsque les choses ne sont pas vraiment habitées, digérées, il y a quelque chose qui ne s'y est pas.
Alors, est-ce que le bijou est encore une valeur refuge?
Je pense que ça reste malgré tout une valeur refuge, mais en ce qui me concerne, les choix que j'ai faits dans mes sélections et dans les bijoux que j'aime choisir, que j'aime créer, ce sont des pièces qui sont destinées à être portées et à être portées facilement, et non pas des pièces qui ne vont servir que pour des événements importants et qui vont la plupart du temps giser dans le coffre. Donc, est-ce qu'on peut parler de valeur refuge? En tout cas, c'est un refuge mental. C'est une douceur.
Ouais.
C'est une douceur qu'elle s'octroie. Qui quelque part pense par moment des blessures ou pense une période.
C'est
et
ça.
Voilà, il y a vraiment de... Voilà.
Ou célèbre une période aussi, même si c'est soi avec soi. Hein.
Ah oui, un anniversaire.
Une réussite.
Voilà, vraiment. Mais il y a quelque chose de l'ordre de soi, du festif, soit de la consolation,
ouais.
Soit de... Voilà, et donc franchement, c'est assez varié comme attente. Hein.
Alors Lamia, qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu mets, toi, dans la phrase ou dans l'expression « refaire sa vie » ?
Oh, je n'y crois pas. On ne refait pas sa vie. On accepte son parcours et on le continue. C'est une expression avec laquelle je ne suis pas du tout en phase. On ne refait pas sa vie. On accepte tous les événements qui l'ont traversé. Et la personne qu'on est devenue grâce et à cause de ces événements, et on la poursuit.
Refaire sa vie est souvent lié à un remariage.
Ah, je ne l'ai même pas pensé.
Je veux bon. Pas, je veux plus.
Je n'ai même pas pensé.
C'est pas pour moi. Mais souvent, refaire sa vie, c'est ça, il y a cette connotation de se remarier, comme si la vie ne se faisait qu'à travers.
Ah non, j'ai pas du tout pensé à joindre sa vie à celle d'un homme. Pour moi, ça ne s'appelle pas non plus refaire sa vie, c'est la continuer différemment, c'est être accompagné différemment, partager. Mais refaire, non, on ne refait rien. On apprend et on continue et on devient quelqu'un d'autre au fur et à mesure, sans pour autant se trahir, à mon sens.
Alors peut-être pour finir, c'est comme si tu étais en observation de la société à travers ton métier.
Oui.
Tu dirais qu'il y a plus de femmes sous l'emprise de la société ou celles qui, au contraire, s'épanouissent dans cette société ?
Oula, c'est difficile, ça, comme question. C'est difficile. Je pense qu'elles sont souvent dans des contorsions, quand même. Dans des contorsions qui... Et puis, franchement, bon, malgré tout, elles s'en sortent bien, moi, je trouve. Moi, je trouve qu'elles s'en sortent bien.
On s'en sort bien, les miens.
Oui, franchement, oui, je trouve, vraiment. Et je trouve ça magnifique. Je vois des femmes qui ont décidé d'entamer une carrière dans des mondes différents, à des âges pas forcément habituels, même sur le tard. Et ça me fait un plaisir fou parce que, voilà, il y a un moment, elles se disent « c'est bon ». Ça va,
je veux
me réaliser. Et vraiment, c'est de plus en plus fréquent. Hein.
Oui.
Et ça, c'est admirable. C'est admirable parce que ce n'est pas simple, parce que ce n'est pas gagné. Et par contre, ça, j'ai l'occasion de l'observer souvent. Donc, elles font ce qu'elles peuvent pour se sortir des schémas tout tracés.
Lamia El-Khessassi, c'était un plaisir d'échanger avec toi, de t'avoir comme femme d'aujourd'hui dans ce rendez-vous féminin.
C'est un plaisir partagé.
Merci infiniment.
Merci infiniment de m'avoir accueillie.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.